Vous écoutez RTL.
RTL 18h. RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos. Et à la une, le frondeur frondé. Benoît Hamon attaqué par l'aile droite du PS. Le ministre proche de Manuel Valls, Jean-Marie Le Guen, a dit tout haut ce matin sur RTL ce que les réformateurs socialistes pensent tout bas. Benoît Hamon est dans une impasse stratégique. Son programme est radicalisé. Il ne le parrainera pas. Ça chauffe donc à gauche, où Benoît Hamon a passé l'après-midi devant les députés socialistes. Dans RTL Soir, on va vous raconter cette journée agitée. À 18h20, on demandera à Alexis Bachelet, proche du candidat, comment il compte éviter l'implosion du PS. Et à 18h30, Alain Duhamel reviendra, lui, sur cette révolte des sociaux-démocrates. RTL Soir, première édition, avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Marc-Olivier et bonsoir à tous.
Les autres titres du journal.
L'inauguration de la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux perturbée par un coup de feu, un tir accidentel mais qui a fait 2 blessés en présence de François Hollande. Nous serons sur place dans un instant. Cette ligne va mettre les Canelés de Bordeaux à 2 heures seulement de Paris. L'Europe est-elle l'avenir de l'agriculture? Sûrement pas pour Marine Le Pen qui a martelé au salon qu'il faut franciser les subventions. On y perdra nos exportations, c'est ce que lui répond Stéphane Le Foll. L'Europe qui traîne des pieds par ailleurs sur les perturbateurs endocriniens. Bruxelles n'a toujours pas voté de réglementation. L'ombre des lobbies n'est pas loin. À suivre également les tribulations des braqueurs de Kim Kardashian. Ils avaient un peu oublié d'éteindre son portable. C'est une information RTL. La disparition de la famille Troadec à Orvault. Les enquêteurs cherchent désespérément la voiture du fils. Et puis le foot, début des 8e de finale de la Coupe de France. Coup d'envoi à l'instant de Fréjus, Auxerre et CA Bastia, Angers. La Bourse de Paris, elle termine en hausse de 0,22% à 4855 points.
À la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, justement après Paris-Bordeaux, quelles seront les prochaines lignes reliées par une LGV? Y a-t-il d'autres projets sur les rails? Puis direction les coulisses de l'actualité. Le mur a tout cassé. Christophe de Chavannes a réuni plus de 5 millions de personnes hier soir en accès sur TF1. Un véritable carton va vous emmener en coulisses de The Wall. 18h35, la nouvelle aventure du patron Robinson après avoir testé le télétravail sur une île déserte. Gauthier Tout le Monde s'exile au fin fond du désert depuis Oman, où il s'apprête à partir à dos de chameau. Il nous raconte son nouveau défi tout à l'heure sur RTL. 18h50, RTL Monde, la culture qui fait de la résistance en Grèce. Après 19h, on refera le monde. Bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
Et pas d'amélioration Patricia pour demain, au programme de la pluie, au programme du vent.
Oui, c'est reparti, nouvelle dégradation pluvieuse pour ce soir et cette nuit par les côtes de la Manche et sur l'ouest du pays. Encore des pluies soutenues qui vont s'accompagner de fortes rafales de vent avec toujours ce risque de vagues submersives sur le littoral atlantique et en particulier pour ce soir et cette nuit sur le littoral aquitain. Et demain donc ce sera encore un temps très gris, pluvieux sur une bonne partie du pays avec de bonnes chutes de neige en montagne. Et attention, risque d'avalanche toujours très élevé de 4 sur 5 sur les Hautes-Alpes, plus de soleil près des Pyrénées et sur la Méditerranée avec des températures comprises entre 0 et 8 degrés demain matin et 8 à 17 dans l'après-midi.
Et à tout à l'heure, Patricia Charbonnier.
RTL Soir.
La France est de plus en plus petite, c'est ce que dit le patron de la SNCF alors qu'on inaugure aujourd'hui la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux.
Plus exactement, la portion Tours-Bordeaux, le premier partenariat public-privé dans ce domaine. François Hollande était aujourd'hui en Charente pour l'événement, mais la cérémonie a été troublée par un coup de feu, Philippe de Maria.
Exactement, François Hollande fait son discours d'inauguration sous un chapiteau en bordure de la toute nouvelle voie TGV. À la fin de son discours, un claquement très fort retentit, vous allez l'entendre dans quelques instants.
Le 2 juin 2016 a été prononcée la déclaration d'utilité publique pour les lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. J'espère qu'il n'y a rien de grave.
Alors, mouvement du détachement de sécurité du président, le président reprend son discours avant de conclure. J'ai pu constater la présence d'un homme au sol, assez loin de l'estrade du président. Il a été pris en charge par les pompiers. Un autre homme aurait été blessé d'après nos premières informations. Un officier, un gendarme plutôt, aurait fait une mauvaise manœuvre avec son arme de service, blessant donc 2 personnes. Alors, François Hollande a quand même inauguré cette toute nouvelle ligne de 302 km de long entre Tours et Bordeaux. 500 ouvrages d'art équipent cette ligne. Elle devrait accueillir 18 millions de passagers. Son ouverture réelle est pour le 2 juillet prochain. Elle mettra donc Bordeaux à 2 heures de Paris.
Merci beaucoup Philippe de Maria pour RTL.
L'inversion de la courbe du chômage, ce ne sera pas pour cette année. Après une embellie en 2016, l'UNEDIC prévoit une nouvelle hausse du nombre de chômeurs en 2017. 47 000 de plus selon les estimations.
On ouvre maintenant la page politique, direction le salon de l'agriculture.
RTL,
le journal de la présidentielle.
Et aujourd'hui, c'est Marine Le Pen qui a chaussé ses bottes en caoutchouc.
La présidente du Front National va de stand en stand depuis ce matin. Elle marche un peu peu en terrain conquis. Il y a beaucoup de monde autour d'elle, l'accueil est franchement chaleureux. Son message est clairement anti-européen, mais en fait, Virginie Garin, ce sont deux visions de l'agriculture qui s'affrontent cet après-midi au salon, car Stéphane Le Foll est là aussi.
Alors, Marine Le Pen tout d'abord a expliqué son programme. Elle veut franciser la PAC. Chaque année, la France verse 21 milliards d'euros au budget européen. 8 sont reversés à nos agriculteurs, selon des critères fixés par Bruxelles. Eh bien, Marine Le Pen veut les récupérer et c'est l'État français qui attribuerait cet argent pour favoriser les exploitations familiales, car selon elle, c'est la concurrence européenne encouragée par l'Europe qui tue l'agriculture française.
Il ne faut pas se désespérer, il faut juste sortir de ce cadre qui est un cadre qui a contribué à l'effondrement de l'agriculture française.
Et Marine Le Pen veut aussi fermer nos frontières aux produits étrangers qui ne respectent pas les mêmes normes que nous en matière de sécurité alimentaire ou d'environnement. Alors Stéphane Le Foll lui a répondu cet après-midi, si on casse l'Europe, on prive les agriculteurs de leur principal débouché.
Tout ce que nous exportions, on ne pourra plus l'exporter et il faudra le consommer au niveau national. Je vais prendre un seul exemple sur le lait. On en exporte entre 6 et 7 milliards de litres de lait. Si on ne les exporte plus, il faudra que la consommation française, si on veut garder la même production, augmente de 7 milliards de litres. Je conseille à tout le monde de prévoir le bol de lait tous les matins. Pour ceux qui boivent du thé avec un nuage de lait, ça sera un cumulus, voire un cumulonimbus qu'il faudra prendre. Voilà le sujet.
Voilà le sujet. Un quart des produits agricoles français aujourd'hui sont exportés. Effectivement, ça ferait beaucoup.
Au salon de l'agriculture pour RTL, Virginie Garin. À gauche, donc Benoît Hamon, candidat socialiste à la présidentielle, se retrouve confronté à une fronde du camp Valls.
Chacun son tour. L'homme de la contestation est désormais contesté. Ce matin sur RTL, le secrétaire d'État au développement, Jean-Marie Le Guen, l'a dit tout net. En l'état actuel des choses, il ne donnera pas son parrainage au vainqueur de la primaire. Et à l'entendre, il n'est pas le seul. Il dénonce la gauche radicalisée de Benoît Hamon. Une première salve pour marquer le retour sur la scène politique de Manuel Valls. Après une longue pause, notamment en Espagne, l'ancien Premier ministre a déjeuné aujourd'hui avec sa garde rapprochée, Benjamin Sportouche.
Oui, et le rendez-vous s'est tenu chez Laurence Rossignol, la ministre des Familles. Une vingtaine de convives autour de Manuel Valls, des proches, dont le garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas et sa collègue à l'éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Et la consigne, c'était surtout ne rien laisser filtrer pour une simple et bonne raison. Manuel Valls ne veut pas être accusé de déloyauté vis-à-vis de Benoît Hamon, mais l'ancien Premier ministre est loin d'être emballé par la campagne du candidat socialiste. Et même s'il ne dira rien publiquement, il se retrouve dans la charge lancée ce matin par Jean-Marie Le Guen sur notre antenne. C'est fait et bien fait, a-t-il même confié à propos des déclarations assassines du secrétaire d'État qui était aussi du déjeuner. Le message de Valls à ses troupes était donc limpide. Ne pas donner l'impression de lâcher Benoît Hamon, mais pas forcément faire campagne pour lui non plus. Restons groupés, leur a-t-il dit, sous-entendu entre valsistes, car l'autre enjeu pour Manuel Valls, c'est d'éviter la fuite des siens vers Emmanuel Macron. L'ancien Premier ministre devrait donc rester en retrait le plus longtemps possible et il espère bien que ses troupes feront de même. Benoît Hamon, qui à ce stade ne lui a pas proposé un meeting commun, ce qui arrange Manuel Valls, car pour l'ancien Premier ministre et ses soutiens, la victoire du PS est impossible. Il s'agit donc déjà de préparer la suite.
Merci Benjamin Sportouche. On en reparle à 18h20 avec un proche de Benoît Hamon, Alexis Bachelet. Le mystère reste entier à Orvault, en Loire-Atlantique, au lendemain de l'ouverture d'une information judiciaire.
Procédure ouverte pour homicide volontaire, enlèvement et séquestration. Voilà maintenant 12 jours que la famille Troadec a disparu. Au domicile familial, on a retrouvé des traces de sang des parents, Pascal et Brigitte, de leur fils de 21 ans, Sébastien, mais rien concernant Charlotte, la cadette âgée de 18 ans. Par ailleurs, il manque une seule voiture, celle de Sébastien. Bonsoir Olivier Bois.
Bonsoir.
À ce véhicule, toutes les polices de France le cherchent.
Oui, c'est l'objectif prioritaire, retrouver cette Peugeot 308 gris clair. La voiture du fils, elle est égarée devant la maison d'Orvault. C'est elle qui manque effectivement, alors que les voitures des parents, elles, sont restées en place. Première difficulté, entre la disparition le 16 et le coup de fil de la sœur de Brigitte Troadec, inquiète de n'avoir aucune nouvelle, il s'est passé une semaine entière. Ça laisse évidemment du temps pour faire du chemin. Deuxième difficulté, pas de caméra de vidéosurveillance dans la rue de la maison de la famille. Les enquêteurs épluchent les images de vidéosurveillance, notamment de l'autoroute qui est juste à côté. À ce stade, selon nos informations, cette voiture n'a été repérée nulle part. La Peugeot s'est volatilisée. Du côté de l'enquête aujourd'hui, pas d'éléments déterminants. Le fils, la personnalité du fils reste au cœur des interrogations. Vous l'avez dit, le sang de la fille n'a pas été retrouvé dans la maison. Cela pose évidemment des questions. Bref, aucune piste n'est écartée ce soir pour espérer lever le mystère de la disparition de la famille Troadec.
Olivier Bois du service police-justice de RTL.
Une nouvelle journée de mobilisation contre les violences policières dans les lycées parisiens et en banlieue. Il y a eu des dégradations et des affrontements. 22 personnes ont été interpellées.
RTL Soir, 18h09.
Une pause et dans un instant, du nouveau sur les braqueurs de Kim Kardashian.
18h11, RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel et la suite du journal d'Isabelle Choquet.
Et on en vient donc, Isabelle, à cette information RTL. Les braqueurs de Kim Kardashian ont été suivis à la trace dès le début de l'enquête.
Oui, une enquête qui touche à sa fin. Aujourd'hui, 12 personnes sont sous les verrous. Le butin, lui, reste introuvable. 9 millions d'euros de bijoux, notamment la bague de fiançailles de Kim Kardashian. Et puis aussi son portable. Et c'est lui, précisément, qui a trahi les voleurs, Jean-Alphonse Richard.
Oui, on peut dire ce soir que le téléphone portable de Kim Kardashian était en fait celui du petit poussé dérobé, effectivement, avec les bijoux au premier étage de l'hôtel particulier où séjournait la vedette de télé-réalité, pour se retrouver dans la poche de l'un des agresseurs présumés, Younis Abbas. Cet homme ne le sait pas, mais le portable est activé et reçoit des messages de proches de la star qui demandent des nouvelles. L'appareil va donc borner, comme disent les enquêteurs, entre 3h13 et 4h15 dans plusieurs artères de la capitale. La rue de l'Arcade, tout d'abord, où Younis Abbas chute avec son vélo et perd même une croix en diamant et en platine appartenant à la star. La rue Lafayette, où il descend d'un taxi. Puis en banlieue, les pavillons Sous-Bois, Bondy, Rosny-sous-Bois, où l'appareil s'éteint. 9 traces de passage précieuses, suffisantes pour être recoupées avec tous les autres téléphones activés sur ce trajet, notamment 5 portables ne communiquant qu'entre eux, ceux utilisés par le gang. Dès le début de l'enquête, les policiers disposaient donc de ce fil précieux, la géolocalisation d'au moins un malfaiteur, un fil patiemment tiré jusqu'aux interpellations.
Merci beaucoup Jean-Alphonse Richard. La ville de Paris part en guerre contre la pub, Isabelle. Ça aussi, c'est d'ailleurs une information RTL.
Oui, comme Grenoble, Paris s'attaque à la pollution visuelle. Autrement dit, Nicolas Burnan, les quelques 1600 panneaux municipaux vont devoir rétrécir.
Oui, une partie d'entre eux, en tout cas des panneaux publicitaires, passera de 8 à 2 mètres carrés, soit une réduction de 3 quarts de leur surface. On trouve ces grandes affiches qui font la publicité d'une pièce de théâtre ou d'une lessive sur les trottoirs ou les bâtiments publics de la capitale. 1 sur 5 sera également numérique, fini les impressions papier. Ces nouveaux panneaux éclairés seront en revanche éteints la nuit pour lutter contre la pollution lumineuse. Ces mesures sont nécessaires, considère Jean-Louis Missica, adjoint au maire de Paris, responsable de l'urbanisme.
On envoie un message important qui est la réduction de l'espace publicitaire dans l'espace public. Ça veut dire la suppression de tous les panneaux les plus grands et ceux qui étaient les plus disproportionnés par rapport à ce qu'est un centre-ville. Je pense simplement que dans une ville comme Paris, il faut que la présence de la publicité soit raisonnable, soit maîtrisée. Et c'est exactement ce que nous faisons avec ce nouveau marché.
Ce système sera mis en place à la fin de l'année. Il ne concerne pour l'instant que les panneaux que possède la mairie de Paris, noyés aux milliers d'autres qui appartiennent aux régies privées.
Information de Nicolas Burnan pour RTL. Le coup de gueule maintenant du jour vise la Commission de Bruxelles. Elle n'a toujours pas voté la réglementation sur les perturbateurs endocriniens.
Oui, on en parle souvent sur RTL. Ce sont ces substances chimiques qui peuvent provoquer des cancers, de l'infertilité, du diabète ou des malformations congénitales. La Commission doit établir une liste précise de ces substances, mais pour la troisième fois, elle a échoué. Et cela agace beaucoup Nadine Lauverja de l'association Génération Future.
Il y a eu des travaux qui tendraient à dire que la Commission est sous influence des lobbies. Et c'est vrai que nous, ce qui s'est passé notamment en décembre dernier nous conforte dans cette idée. La Commission a introduit des nouvelles dérogations possibles pour les industriels sur ces perturbateurs endocriniens. La possibilité donc de continuer d'utiliser des perturbateurs endocriniens. Donc c'est vrai que tous ces signaux-là nous inquiètent plutôt qu'autre chose. Et elle semble s'obstiner à vouloir proposer ce texte qui n'est pas acceptable en l'état. Même d'ailleurs, l'agence française qui s'occupe de l'évaluation des pesticides et donc des perturbateurs endocriniens s'inquiète de ce texte qu'elle trouve trop laxiste, pas assez protecteur. Donc on se pose beaucoup de questions sur le rôle joué par la Commission sur ce sujet et sa réelle volonté, ou plutôt non-volonté, de protéger la santé des Européens.
Propos recueillis par Sophie Jousselin pour RTL. Et puis le foot, revoilà la Coupe de France, dis donc.
3 matchs ce soir en ouverture des 8e de finale. Tout à l'heure à 21h, Bordeaux reçoit Lorient. Et puis 2 rencontres ont débuté à 18h. D'abord, Fréjus-Saint-Raphaël contre Auxerre, Hugo Hamelin.
Oui, avec une sensation au stade champêtre Louis-On de Saint-Raphaël, puisque c'est bien l'étoile de Fréjus, club amateur de CFA, la 4e division française, qui a ouvert le score dans les 5 premières minutes de jeu par Mendy. Et qui désormais donc mène 1-0 face aux professionnels de la Auxerre.
On joue aussi en Corse. Le CA Bastia est opposé à Angers, Anthony Tognetti.
Et on joue depuis un quart d'heure ici à Mezzaville. Toujours 0-0 entre le CA Bastia et le SCO d'Angers. Les Corses visent l'exploit d'atteindre, pour la première fois de leur histoire, un quart de finale de Coupe de France.
A tout à l'heure, Anthony Tognetti. Et à tout à l'heure, Isabelle, vous revenez à 18h30.
A tout à l'heure.